aujourd'hui, je veux commencer simplement avec Jean 3,16, que nous connaissons tous. Dieu a tant aimé, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés, et pour ceux qui ont cru en son Fils, il nous a donné cette vie éternelle. Alors, cette vie éternelle se manifeste ou s'exprime par l'amour. Et donc, voilà, tu as dit tout à l'heure, Dieu nous a donné un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement, ce n'est pas un souhait ou une option. C'est Dieu qui nous a donné sa vie et il voudrait que sa vie en nous se manifeste d'une certaine manière. Okay, donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, comment montrer l'amour. Et Jacques, il dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. On veut faire le bien, n'est-ce pas? On veut progresser dans notre vie chrétienne. Alors on progresse bien quand on marche selon ce principe-là. Donc au fond, l'idée d'aimer, c'est de faire du bien à d'autres personnes pour leur bénéfice sans rien attendre en retour. On ne fait pas le bien pour recevoir le bien, on fait le bien parce que l'autre a besoin de ce bien. Alors, j'ai mis une petite note là. Quand on retient le bien, on peut faire le bien, mais on retient le bien, on ne l'exprime pas. Ça montre qu'on n'aime pas l'autre. Si on peut faire le bien et on ne fait pas le bien, ça veut dire que vous n'aimez pas la personne à qui vous aurez pu faire le bien. Et encore pire, c'est quand on fait le mal à quelqu'un. Donc dans ce schéma, quand vous faites le mal à quelqu'un, ça veut dire que vous avez la haine pour cette personne. Peut-être que vous n'aimez pas cette personne, vous n'allez pas faire le bien, même s'il a besoin de cette chose-là. Mais quand vous faites le mal à quelqu'un, ça va au-delà des limites. Hein? Donc, on souhaiterait que parmi nous, hein, on manifeste l'amour, pas le manque d'amour, pas la haine, mais l'amour. Il y a plusieurs domaines dans lesquels l'amour s'exprime. Le bien peut être exprimé. Donc, je vais donner juste une pensée au début. Tu peux te donner à d'autres personnes. Donc, il y a un verset qui dit, pas grand, plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comme Jésus a fait, n'est-ce pas? Oui, ok. Mais ce n'est pas juste pour mourir, parce que Dieu veut des sacrifices vivants. Donc, si vous donnez votre vie pour d'autres personnes, vous ne pouvez plus rien faire. Ok, donc, là, dans le quotidien, vous pouvez vous dépenser pour le bien des autres. Vous pouvez passer votre temps en bénéfice des autres. Tu peux donner de tes biens. Tu peux prêter des outils, par exemple. Tes libéralités. Tu peux donner des bonnes paroles ou des conseils aux autres personnes. Ce sont des façons pour faire le bien envers les autres. Et tu peux être à l'écoute. Il y a plein de monde qui veut dire quelque chose, mais il n'y a personne qui veut les entendre. Donc, ça peut être un grand bénéfice, simplement écouter, sans même, peut-être pas donner des conseils par la suite, mais au moins d'entendre. Ah, c'est important. Donc, quand on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 13, et nous n'allons pas tout lire, 1 Corinthiens chapitre 13, c'est ce petit chapitre qui parle de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. En fait, je veux voir surtout le verset 7. Le verset 7. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Ok? Donc, c'est sur ces pensées-là, les tout de l'amour, que je voudrais me reposer en premier. l'amour excuse tout. Donc, ça veut dire que Dieu attend à ce que nous pardonnons les uns les autres. Okay? Nous devons pardonner les fautes, les peines, les blessures, toutes ces choses-là. Le fait, c'est que nous, les chrétiens, malgré tout, nous allons blesser les uns les autres. Nous allons faire tort les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'on est êtres humains. C'est comme ça que les êtres humains agissent. On fait tort aux autres. Pas constamment, mais ici et là, on fait du tort aux autres. Et c'est très intéressant. Je vais lire... non, quelqu'un d'autre peut le lire. Quelqu'un veut lire un passage? Oui? Non? Tu veux lire Matthieu chapitre 18, verset 20 à 23. C'est intéressant le contexte où Jésus va dire qu'il faut pardonner 70 fois 7. Le contexte est très intéressant. Donc, Matthieu chapitre 18, verset 20 à 23.
Car où il y a deux ou trois personnes assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Alors Pierre s'étant approché, lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut compter avec ses serviteurs.
Ok. Donc, premièrement, on aime tout ça. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, là Jésus se trouve. On aime ça. Mais qu'est-ce qu'il dit tout de suite après que, quand les chrétiens sont ensemble, qu'est-ce qui arrive? Oh, quelqu'un a marché sur mes pieds. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut pardonner. Pierre dit, wow, quand même, il faut une limite à ça. Peut-être 7 fois je l'ai pardonné mon frère avant de lui donner mon poing dans le nez. Et Jésus dit non. 490 fois. Ça veut dire il n'y a pas de fin au nombre de fois que nous allons pardonner les uns les autres. Et après, il commence tout de suite avec une parabole. Il dit oh, voilà. C'est comme si un roi est parti et puis il va faire rendre compte à ses serviteurs. Combien de fois avez-vous pardonné à votre frère ou à votre sœur? Quand Jésus revient, il dit, ben, voilà, rendre compte. Hein, c'était 9 fois, 100 fois, 200 fois, 490 fois. C'est beaucoup. C'est pas beaucoup? Oh, c'est beaucoup.
Oui, beaucoup, mais pour... Non, pas beaucoup, mais pour oublier. Elle est
fâchée
avec son frère et tout,
oublié. Oui, c'est bien de l'oublier
ouais.
aussi.
Mais pas.
Donc, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 8, on ne va pas le chercher, mais il dit que l'amour couvre ou cache beaucoup de péchés. Okay? C'est parce que quand on aime, on pardonne. C'est ça que Jésus veut dire à Pierre et à nous. Il faut aimer les frères. Même quand on marche sur les pieds des uns des autres, il faut pardonner. Mais il ne faut pas oublier, quand même, il y a une obligation dans cette question de pardon. L'obligation de reconnaître nos torts. OK? Donc, ce n'est pas simplement Pierre, tu dois pardonner, mais à chaque fois que le frère vient, ah, excuse-moi, j'ai marché sur ton pied encore. Il reconnaît son tort et nous pardonnons ce tort. C'est comme ça que Dieu agit. Il a déjà fait en sorte que tous nos péchés soient... le pardon pour tous nos péchés est disponible en Jésus-Christ. Mais il ne pardonne pas les non-croyants. Il pardonne le non-croyant qui vient dire, je suis pécheur, pardonne-moi. J'accepte le sacrifice de Jésus à ma place. Okay? Et puis Dieu pardonne parce que Dieu nous aime. Et dans son amour, il veut pardonner. Mais il ne peut pas pardonner celui qui ne veut pas être pardonné. Celui qui ne reconnaît pas ses péchés. Okay? Donc c'est important quand même que quand nous avons fait du tort à quelqu'un, au lieu d'être orgueilleux, eh bien, il faut que simplement dire, écoute, je suis désolé, j'ai fait ça, pardonne-moi. Et puis la personne, au moins le chrétien, devrait répondre en pardonnant. Et c'est ça qui a fait le fils dans la parabole du fils prodigue. Il est parti, il a fait plein de bêtises, et puis il revient à son papa et il dit, pardonne-moi, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne mérite même pas vivre sur son toit, je veux être un ouvrier chez toi. Ok, le papa dit, oh, ben, je te pardonne, viens là, et dans une grande calette. N'est-ce pas? Ok. Donc, ici, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7, il dit que l'amour excuse un peu. Excuse tout. Oh, ça c'est beaucoup. Ça c'est comme le 490. Ok. Après, il dit que l'amour croit tout. Alors, ça c'est pas être crédule, être stupide. C'est pas ça que ça veut dire. Mais, faute de la preuve du contraire, le chrétien devrait croire à la bonne volonté de l'autre chrétien ou de l'autre personne. Il ne faut pas tout de suite dire, ah mais non, il me ment, il me vole, il me fait ceci, il fait cela, il me fait tort. C'est facile. Mais non, s'il n'y a pas une preuve que c'est vraiment la personne agit mal, ben, vous devez croire qu'il y a un malentendu ou autre chose et essayer de ramener la situation à une bonne entente entre vous. Donc, nous n'attendons pas la perfection les uns des autres. Si vous attendez à votre propre perfection ou à ma perfection, vous allez être dessous. Parce que ça ne va pas arriver. Okay? On est être humain. Donc, on veut croire tout. On veut essayer d'accepter. Là, je me souviens en Normandie, à monsieur, et je commençais à avoir des soupçons quand même. Et puis à un certain moment, j'ai dit, bon, je vais tester, et puis voilà. J'ai appris que, non, il me mentait. Il me disait même rien de vrai. Parce qu'après un moment, quand on ment, les choses commencent à se contredire, et oh là, quelque chose ne va pas. Donc oui, ok, à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, je n'aime pas le nom, j'ai dit, quand vous pouvez venir à l'église et dire, je vous ai menti, vous pouvez revenir. Mais en attendant, il ne faut plus revenir à l'église parce que vous ne dites que des mensonges. Il n'est pas revenu parce qu'il ne voulait pas reconnaître qu'il était toujours. Je veux dire toujours, c'est comme une expression pour respirer, c'était il respirait le mensonge. Hein? C'était ce genre de choses. Et non, on peut croire tout juste parce que la preuve est là qu'on ne dit pas la vérité ou on vole, etc. Il dit, espère tout. L'amour espère tout. L'idée là, c'est que, ok, il y a un frère qui me gêne. Et j'aime pas cela, personnellement, ta personnalité, je n'aime pas ça. Mais quand on dit, l'amour espère tout, c'est l'idée que Dieu, quand même Dieu qui peut tout faire, Dieu peut changer cette personne. Dieu peut changer cette personne, il peut changer les circonstances. Dieu peut agir pour qu'il y ait quelque chose de différent. J'espère tout. C'est dans ce sens-là. Espérer qu'une personne va changer. Espérer que la personne va croire en Jésus. Comme tu as l'espoir que ta fille va croire en Jésus. On ne peut pas croire pour elle, mais tu as cet espoir. Et puis, il dit dans le verset 1 Corinthiens 13, 7, que l'amour supporte tout. Supporte tout. Et ça, c'est cette endurance, être patient avec les autres. Donc, le chrétien peut être fort grâce à Dieu. Donc, Dieu peut nous fortifier pour supporter ce qui arrive dans nos vies. Hein, bon, pour nous, on veut toujours que ça se passe bien. On veut que ça se passe bien, mais ça ne se passe pas toujours bien. C'est pas toujours une vie de rose. Donc, pour nous, on peut supporter parce que par l'amour qui a son source en Dieu et grâce à Dieu est en nous par le Saint-Esprit, nous pouvons supporter, on peut endurer, on peut avoir la patience, mais les gens qui sont dans le monde, ils n'ont pas cette source à laquelle ils peuvent prendre cette ressource. Ils sont que leur être humain. Ils n'ont pas cet amour de Dieu. Donc, nous pouvons donc croire, espérer, supporter et supporter, espérer et supporter tout. Donc, je veux dire aussi que du fait qu'on est des êtres humains, il ne manque pas d'opportunités pour nous critiquer les uns les autres. C'est normal. Il y a plein de choses en moi que vous pouvez trouver, ah ben, il est bizarre, mais c'est vrai. Et on peut dire pareil pour nous tous. Il n'y a pas un manque d'opportunités pour critiquer. C'est facile, parce que c'est la réalité. Mais, quand vous constatez chez les uns et chez les autres, chez moi, qu'il y a des choses, eh bien, il faut prier pour l'autre. Okay? Et surtout, on commence là, on prie pour l'autre. Mais vous savez bien, quand Jésus a donné la parabole de la poutre et de la paille, il a enseigné que vous pouvez bien prier pour l'autre, mais où est-ce que le changement doit commencer? Ici. C'est ici que le changement commence. Et on arrive à s'adapter, à accepter les choses que avant on voulait critiquer. Mais maintenant, avec les changements que Dieu fait en nous, quand on enlève la poutre, eh bien, on arrive à supporter, selon les principes-là, les choses qu'avant on ne pouvait pas. Comment ça se fait que les chrétiens peuvent mettre en pratique ces quatre choses? C'est parce que l'amour est patient et plein de bonté. L'amour est patient et plein de bonté. La bonté, c'est le désir, c'est la volonté de faire le bien envers les autres, mais c'est aussi l'acte. C'est pas simplement le vouloir, c'est aussi l'acte. Et en conséquence, les chrétiens ont certaines choses à faire. Donc, on va focaliser sur ces choses qu'on a à faire. Donc, ça revient. Comment montrer l'amour? Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 points. Premièrement, les chrétiens devraient pratiquer l'égalité et la justice. Okay? Je ne parle pas d'égalité humaine et justice humaine, je parle d'égalité dans le sens biblique, et ça, c'est l'opposé de favoritisme. Okay? Isaac avait 2 jumeaux, et dans le couple, il y en a qui préférait l'un et l'autre préférait l'autre. C'est le favoritisme, ça a créé beaucoup de problèmes dans la famille. Si vous faites exception des personnes, si vous faites de la favoritisme, vous commettez, il dit, un péché. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Donc, on ne veut pas être injuste, on ne veut pas faire des inégalités, on veut pratiquer l'égalité et la justice. Donc, dans cette idée-là, par exemple, nous devons, en tant que chrétiens, en tant que faisant partie d'une communauté, nous devons reconnaître qui a besoin de passer du temps avec les autres personnes. On doit passer du temps avec les autres personnes. Le chrétien a besoin de la communion fraternelle. Certaines personnes sont plus indépendantes dans leur vie, et d'autres sont plus accrochées à la communauté. Si vous faites un peu de temps là-bas à Périgueux, ils sont toujours ensemble, hein, tous ces Ukrainiens, ok? Et c'est intéressant à voir. Tandis que nous, on est tous plutôt partis jusqu'à dimanche. OK? On a besoin de la communion fraternelle. Si quelqu'un est laissé tout seul, eh bien, le chaleur se refroidit. OK? C'est par définition. Les chrétiens passent tout le temps ensemble. Je vais lire dans Actes chapitre 2. Acte chapitre 2, verset 46. Donc, ça parle du premier chrétien. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ça continue, mais le point c'est qu'ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble à l'église, là il dit au temple, ils étaient ensemble dans les maisons les uns des autres, etc. Donc, pour pratiquer l'égalité et la justice, eh bien, il faut que vous vous intéressiez aux autres personnes. Vous devez avoir en vue leur bien-être. Okay? Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est comme ça que ça se manifeste. Vous devez reconnaître la valeur réelle des autres personnes parce que Dieu leur donne une valeur réelle. Et vous devez reconnaître cette même valeur comme Dieu aussi donne à vous une vraie valeur. Et donc, pour terminer le premier point, n'oubliez jamais que nous sommes, en dépit de nos différences et nos gènes, eh bien, nous sommes des frères et sœurs en Christ. Okay? Ça commence là, ça finit là. Après, le chrétien devrait pratiquer les bonnes œuvres. Et quand je dis les bonnes œuvres, je veux dire les œuvres bienfaisantes, la pratique du bien, faire les bonnes choses. Et aussi les œuvres de grâce. Donc, je donne quelques exemples. L'entraide, la gentillesse, le secours, la protection. Il y a plein de choses qu'on peut faire les uns pour les autres, même si l'autre personne ne le mérite pas. Comme nous ne méritons pas le salut, eh bien, peut-être les autres aussi ne méritent pas votre aide, mais ils ont peut-être besoin de votre aide. Et comme ça, on peut montrer notre amour pour ces autres personnes. Quand on dit les œuvres de la grâce, ça veut dire que ce n'est pas mérité. Grâce est une chose qui n'est pas méritée. Donc, si on fait une bonne action pour une personne qui ne mérite pas, et c'est que, voilà, on montre de l'amour envers cette autre personne. On peut agir par amour, donc en faisant de la bonté, en faisant de la libéralité, même que ce soit envers les frères et sœurs ou même envers des choses, les personnes ou les choses dans le monde. Il y a des activités comme nous, quelques-uns parmi nous ont soutenu André à travers 100 pour 1. C'était une chose du monde, mais on a utilisé cette chose-là pour enfin faire du bien envers André et sa famille. Donc, il y a plein de façons par lesquelles on peut pratiquer les œuvres bienfaisantes. Maintenant, je voudrais lire Jacques chapitre 2, si quelqu'un veut le lire à haute voix. Jacques chapitre 2, on va lire verset 14 à 19. Qui voudrait lire Jacques chapitre 2, verset 14 à 19? Il faut le dire à haute voix parce que le micro est là.
Mes frères et sœurs, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère est nu et manque de nourriture de chaque jour, que l'un de vous leur dit, partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous, sans pouvoir pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent.
Merci. Donc l'idée là, c'est vos actions parlent plus fort que vos paroles. On peut dire oui, je vous aime, mais qu'est-ce qu'on fait, hein? Donc globalement, Jacques demande quelle est l'utilité de votre foi si elle ne vous pousse pas à agir pour le bien et vous pousse à abstenir du mal, n'est-ce pas? La foi doit avoir une suite, ça doit faire quelque chose. Jésus a dit, c'est intéressant cette citation de Jésus, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si vous aimez ceux qui vous aiment déjà, n'est-ce pas? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? C'est ce mot-là qui m'interpelle. D'extraordinaire. Les païens n'agissent-ils pas de même? Donc, l'enseignement biblique, c'est que la foi nous pousse à des nouvelles élévations, à faire des choses extraordinaires, des choses qui sont hors habitude, aux meilleures qualités de la bonté. Puis un autre mot que je voulais voir, c'est le mot douceur. Douceur, ça fait partie, on ne parle pas beaucoup de douceur, ok? Mais ça fait partie des fruits de l'esprit, douceur. Donc, je lis dans Jacques chapitre 3, verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La Bible dit que notre Seigneur Jésus était plein de douceur. Quand Paul veut souhaiter que les Corinthiens agissent bien, il invoque la douceur et la bonté de Christ. Intéressant. Et puis, je pense que j'aimerais lire peut-être Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Et on va se limiter verset 1 à 4. On peut lire jusqu'au verset 7, mais on ne va pas lire tout. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Ah, oh, ça résume les choses qu'on a dit au début, lesquelles l'amour est supporte tout, croit tout, espère tout, etc. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, c'est-à-dire on a le même. Il n'y a pas un autre dans lui et l'autre en lui. Non, c'est le même. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, c'est-à-dire par notre appelé à la foi en Jésus-Christ. Donc, le douceur. Si on est toujours... comment ça s'appelle? Je n'ai même pas le mot. Non. Agressif. Le contraire de douceur. Prêt à se battre les uns avec les autres. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Il veut cette douceur. Donc, il y a plein d'autres mots là. Mais je focalise sur le mot douceur. OK. Donc, la troisième chose, c'est que le chrétien doit veiller sur ce qu'il dit. Le chrétien, pour montrer son amour, en montrant son amour, il doit veiller à ce qu'il dit. Tous les dons se manifestent soit en parole, soit en action. Donc, on a déjà parlé des actions, maintenant on parle des paroles. Jacques dit de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ils ont plein d'exemples de ça en Californie, n'est-ce pas? La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placé parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés, et ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Dans Jean chapitre 3, verset 7 à 8. Donc, il y a deux points négatifs et deux points positifs. Point négatif, ne parlez pas du mal des autres. Ne parlez pas du mal des autres. Donc, c'est dans, vous pouvez l'écrire, Jean chapitre 4, verset 11. Le second point négatif, ne vous plaignez pas les uns des autres. Ça, c'est dans Jacques chapitre 5 et verset 9. Et en positif, dit ce qui sert à l'édification. On veut construire, on n'est pas là pour détruire, on est là pour construire. Dit ce qui sert à l'édification, l'encouragement, les compliments, le conseil, ou même répondre avec douceur. On aime bien répondre. Reprendre. Mais non, il faut que ça soit avec douceur. Ce n'est pas interdit, mais il faut le faire avec douceur. Et puis, il faut prier pour les autres. Et ça, c'est dans... L'autre était dans Éphésiens 4, verset 29. Et ça, c'est dans Jacques, chapitre 5, et verset 16. Et puis, la dernière chose, c'est que les chrétiens, par amour, devront respecter les opinions et les particularités des autres personnes. On est tous différents. Dieu nous a choisis de tous les côtés de la vie, de tous les arrière-plans et tout ça. On est tous différents. Je vais lire, ou est-ce que quelqu'un veut lire Romains chapitre 12, verset 17 à 21? Romains chapitre 12, verset 17 à 21, à haute voix, pour le micro.
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.
Merci. Donc ce sont tous les façons de manifester notre amour les uns pour les autres. Donc je vais faire un petit résumé des points qu'on a vus. Des façons pour montrer l'amour. Donc, sur la base de ce que Jésus nous a commandé, aimez-vous les uns les autres, on a dit que par l'amour, nous pouvons excuser tout, croire tout, espérer tout et supporter tout. Et on a vu que par amour, nous voulons pratiquer l'égalité et la justice, et non pas donc le favoritisme. Par amour, nous voulons pratiquer les œuvres bienfaisantes et les œuvres de grâce. Par amour, nous voulons veiller à ce que nous disons. Et par amour, donc la dernière chose là, nous voulons autant que possible, hein, parce que ce n'est pas toujours entièrement possible, mais autant que possible, nous voulons respecter les opinions et les particularités des autres. Puisqu'on est toujours au début de l'année, c'est que le premier dimanche de février, je voudrais lire le texte qu'on a lu les dernières quelques années au début de l'année, un bref résumé qui est utile pour vous aider à vous consacrer au Seigneur et à son service. Et je vais le lire à la première personne. Donc, d'ailleurs, j'ai quelque part là où se trouve que j'ai mis ça. cacher sous l'eau. Tiens, comment tu veux distribuer ça? Comme ça, vous pouvez suivre quand je lis. J'ai pris ça dans un livre quelque part, tu modifies un petit peu. C'est simplement un rappel. Merci Thomas. Donc avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ et grâce à son Saint-Esprit qui habite en moi, je me rappelle mon service en tant que croyant. La première chose, quoi? Aimer les autres. Vouloir leur bien. Garder ma langue du commérage et de la médisance. Suivre les bons conseils des dirigeants de mon église, parce que les conseils des dirigeants, là, c'est moi en ce moment, mais ce n'est pas toujours les bons conseils. Donc, si ce n'est pas un bon conseil, il ne faut pas le suivre. Les nobles disent ça, ce n'est pas un bon conseil. Okay? Donc, suivre les bons conseils. Prier quotidiennement, inviter les non-croyants aux réunions, être aimable, témoigner de ma foi en Christ, assister régulièrement au culte dimanche, soutenir l'Assemblée avec mes talents, mon temps et mes finances, et m'efforcer à avancer dans la piété. Donc la piété, c'est la vie chrétienne d'après la Bible, et la connaissance de la foi. Okay? Donc ça c'est, vous pouvez garder la feuille si ça vous plaît et si ça vous aide. Donc toutes ces choses sont un peu sur ce thème de l'amour, manifester l'amour les uns envers les autres.